toi.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, je suis avec Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Christophe qui va bientôt nous rejoindre. Claude à la technique et bien sûr Gilles au micro avec vous. Ce soir, une émission un peu particulière puisque nous allons parler un petit peu de, dans le cadre du projet du Grand Paris. Il est prévu la construction d'un hôpital immense qui va s'appeler le Paris Nord. Accessible et moderne et certainement coûteux. Nous entendons dans ce soir donc par téléphone ce soir Monsieur Hugo, donc qui est effectivement un partenaire d'un élu PC de la ville de Paris qui a suivi le dossier. Nous l'aurons donc par téléphone. Voilà. Donc il faut savoir que ce projet va certainement se situer à Saint-Ouen, qu'il sera donc fait au niveau architectural de façon horizontale sur une grande superficie, hein, plusieurs kilomètres carrés. Qui va coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Et la question qui va se poser, c'est effectivement en termes de transfert de compétences pour les hospitaliers, tout ça, les gens qui travaillent dans l'hôpital, comment ça va un peu se produire. Il est prévu aussi une suppression, un certain nombre de suppressions de lits, 600 lits qui seraient supprimés sur Bichat, et également sur Beaujon et la Riboisière. Et dans ce cadre-là, nous entendrons donc un intervenant au téléphone. Pour commencer, j'aimerais quand même que, Ludo, si tu peux me donner un petit peu une impression. La première annonce, c'est donc sur les suicides de chômeurs, c'est ça?
Oui, absolument. Donc, il ne vous a pas échappé que le chômage a encore augmenté ce mois-ci, donc certes très faiblement. Mais bien entendu, tout ça reste, c'est quelque chose qu'on savait déjà et dont on peut se douter. Donc juste pour l'anecdote, on approche des 3 millions, on est à 3 millions et demi de chômeurs, donc selon la DARES, et ça fait une différence de 800 000 chômeurs avec les chiffres de l'INSEE. Et donc effectivement, récemment, on s'est aperçu aux surprises, avec pas mal d'années de retard, que des chômeurs pouvaient se suicider. Si, il n'y a pas que les suicides au travail. Et donc, on a envie de dire, que c'est bien, on invente le tiède. Voilà, donc le chômage tuerait entre 10 000 et 20 000 personnes par an. C'est l'estimation d'une étude de l'INSERM sur la santé des chômeurs, dirigée par Pierre Ménéton, et qui a été publiée déjà en novembre 2014 dans des revues anglaises. Il a suivi entre 1995 et 2007 6 000 volontaires, donc âgés de 35 à 64 ans, pour observer les effets du chômage qu'il a isolé. C'est bien, il a bien suivi des chômeurs, il a bien fait une comparaison entre des chômeurs et des gens qui n'étaient pas, qui étaient classés comme inactifs. Et donc, ces observations ont porté sur la santé cardiovasculaire et la mortalité globale. Donc, l'étude met en évidence une surmortalité très importante chez les chômeurs, donc presque 3 fois supérieure à celle des non-chômeurs, tout de même. Et le chômage a notamment des effets majeurs sur la survenue d'accidents cardiovasculaires et des pathologies chroniques. Or, ces effets sont bien liés à la condition de chômeur parce que les retraités et les personnes volontairement inactives ne sont pas touchées, dit-il. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une vraie étude. Donc, et pourquoi, en fait, cette surmortalité des chômeurs? C'est que les chômeurs ont des comportements à risque induits par leur situation personnelle. Et notamment, ils consomment beaucoup plus d'alcool, moins de fruits et de légumes, et ils ont un apport calorique hors alcool très significativement plus élevé que la moyenne, c'est-à-dire qu'ils mangent moins bien en fait que les gens, donc il y a à la fois des problèmes de budget, et puis il y a aussi un laisser-aller. Hein. Mais de l'aveu de l'auteur, ces résultats sont probablement une sous-estimation de la réalité, car elles se basent en effet sur un échantillon de personnes plus favorisées que la moyenne et ne tiennent pas compte des effets de la crise économique. Donc vous avez bien entendu, 2007, c'était avant effectivement la crise économique. Donc depuis, il n'y avait aucune étude qui ne donnait pour l'heure de vision plus précise de la situation. Donc ce qui est paradoxal, notre libération dans un pays qui connaît le chômage de masse depuis des décennies. Donc fin janvier, Pôle emploi a effectivement recensé 3,7 millions de chômeurs en France, 5,5 en comptant ceux ayant une petite activité. Voilà. C'est une problématique, oui, 5,5 bien sûr, c'est une problématique importante à nos yeux, assure pourtant le ministère du Travail, qui serait temps qu'il se réveille, qui a récemment confié à l'inspection générale des affaires sociales une mission sur la prise en compte des problématiques de santé dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, ben voyons, dans son plan de lutte contre le chômage de longue durée, présenté début février, le ministre du Travail, François Rebsamen, prévoyait de renforcer la possibilité de déclencher un bilan de santé des demandeurs d'emploi dans le cadre de son accompagnement. Et ben on a envie de dire, au moins, le chômeur, il est prévenu que voilà, la tombe l'attend à la sortie de sa période de chômage.
Merci Ludo. Je crois que nous avons Hugo au téléphone. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre appel, à notre invitation.
Avec plaisir.
Alors, je crois que tu vas me confirmer, tu travailles donc avec tu travailles avec un élu PC de la ville de Paris, c'est ça ?
Oui, en fait, je suis moi-même élu Parti communiste Front de Gauche dans le 18e arrondissement de Paris, donc arrondissement qui est directement concerné par cet hôpital du Grand Paris.
D'accord. Alors justement, donc on a un certain nombre de questions éventuellement à te poser. La première, c'est que effectivement, Bichat, quand même, qui a du monde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Bichat. Il y a beaucoup de gens qui vont en tant que patients à Bichat. C'est un hôpital qui marche bien. Enfin, a priori de ce que j'ai su. Pourquoi il n'y a pas de travaux faits sur le site de Bichat de rénovation? Parce qu'apparemment, effectivement, il y a des problèmes de mise aux normes, de travaux d'humanisation, etc. Des problèmes de lits aussi, puisqu'il y a effectivement des chambres qui n'ont pas de lits. Enfin, bref. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas fait des travaux sur déjà l'existant et qu'ils prévoient donc de faire un grand hôpital au nord de Paris?
D'accord. Alors, il y a plusieurs choses qui sont vraies en partie dans ce que vous dites. D'abord, c'est que il y a des travaux qui ont été faits sur Bichat et depuis moins de 10 ans, il y a des millions d'euros qui ont été investis pour rénover toute une partie et notamment la partie de la maternité qui fonctionne extrêmement bien à Bichat. Donc Bichat est un hôpital qui globalement fonctionne bien et qui sur toute une autre partie fonctionne moins bien. C'est vrai, il y a des endroits qui sont vétustes, il y a des endroits qui mériteraient un investissement important pour être rénové. Or, le gouvernement, la PHP n'ont pas fait le choix de rénover, de mettre les investissements nécessaires pour rénover ces parties-là. Et moi, je pense que c'est directement politique, puisque en laissant se dégrader cet hôpital, il est plus facile ensuite de vendre un nouveau projet en disant, bah, vous voyez, cet hôpital ne fonctionne pas bien, il est dégradé, on voit donc la nécessité d'en construire un nouveau. Et c'est, à mon avis, dans une logique purement politique. Et puis, dans une logique, tout à l'heure, on parlait des chômeurs et de la politique du gouvernement, c'est aussi dans une logique générale d'austérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État ne met pas l'argent qu'il devrait pour restaurer des hôpitaux, pour créer de nouveaux lits, pour créer des nouveaux postes de médecins et d'infirmiers. Et donc, c'est un problème directement lié, pour le coup, au choix d'austérité de ce gouvernement.
D'accord. Alors, justement, il y a, en termes de on va parler un peu des chiffres, parce que c'est quand même intéressant. Moi, j'ai rencontré en off le responsable du projet, enfin, un des responsables du projet Paris Nord, hein, le grand hôpital Paris Nord, qui évidemment m'a vendu l'hôpital, hein, donc une sorte de propagande, on s'en doutait. Mais j'ai vu qu'il y avait également, donc il m'avait dit que le coût donc de ce nouvel hôpital serait de plusieurs centaines de millions d'euros, enfin bref, voilà.
Bien sûr, c'est des coûts faramineux. Hein.
Faramineux, absolument. Et je vois qu'effectivement, j'ai lu dans un texte, alors peut-être qu'il faudrait confirmer ou infirmer, qu'il y a entre 230 et 400 millions, c'est une fourchette, hein, d'euros. 400 millions, entre 230 et 400 millions d'euros de travaux de rénovation sur Bichat s'il fallait rénover plutôt que de construire. Est-ce que c'est vrai ?
Voilà, c'est les chiffres qu'on a. Et après, on a un autre souci, c'est que l'assistance publique des hôpitaux de Paris, le gouvernement, la mairie de Paris, ne donne absolument aucun chiffre ou alors au compte-goutte. Mais en effet, les estimations qu'on a, c'est autour de 3 à 500 millions d'euros qu'il faudrait mettre pour l'hôpital Bichat. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'au lieu de construire un immense projet d'une espèce d'usine à patients ou à clients, maintenant il faut appeler ça des clients, dans le nord de Paris, nous on demande à ce que soient mis ces 3 à 500 millions d'euros pour rénover Bichat immédiatement et de ne pas attendre 10 ans qu'un nouveau projet voit le jour, on ne sait pas où encore, dans le nord de Paris.
D'accord. Alors le souci, c'est que ce nouveau projet, il comprend donc effectivement Bichat. Bichat serait donc effectivement amputé d'une partie de ses services, hein, on va dire ça comme ça.
Bien sûr, et pas seulement, puisque oui, il y a aussi l'hôpital Beaujon.
Et la Riboisière, c'est ça ?
L'hôpital Beaujon, alors directement l'hôpital Beaujon et un peu plus indirectement l'hôpital La Riboisière, parce qu'en effet, l'objectif, à mon avis, politique qui se cache derrière tout ça, c'est de construire, dans le cadre du Grand Paris, en effet, un grand hôpital, un hôpital nord du Grand Paris, dans une visée de concurrence internationale, de compétitivité internationale, avec des pôles d'excellence, des pôles de recherche, qui est une bonne chose, mais pas une bonne chose si ça se fait au détriment des populations. Et en l'occurrence, ça se fait au détriment des populations, parce que ce nouvel hôpital, les estimations que nous on a, ce serait une perte de au moins 600 lits par rapport à ce qui existe aujourd'hui, et ce serait surtout une perte de proximité pour le 18e arrondissement, pour l'hôpital La Riboisière. Enfin, le 18e arrondissement, c'est environ 200 000 habitants. c'est-à-dire la, en gros la taille de Grenoble. Et on n'imagine pas Grenoble sans un hôpital, et c'est ce qui pourrait se passer si Bichat était fermé au profit de ce grand hôpital Nord. Donc en effet, c'est un projet qui n'implique pas seulement Bichat, qui concerne aussi l'hôpital Beaujon, qui concerne aussi indirectement la Riboisière, et qui se fait dans une voilà une logique qui est tout sauf une logique au service des populations de ces quartiers-là.
Oui, alors peut-être, excuse-moi de le dire comme ça, mais peut-être qu'il y a de votre part un petit peu de... J'ai fait à la provoque, excuse-moi, hein. Un peu de mauvaise foi, parce que moi, dans ce que j'ai entendu dire par les gens qui m'ont vendu le projet, c'est qu'effectivement, ce nouvel hôpital pourrait naître un petit peu entre Clichy et Saint-Ouen, donc mairie de Saint-Ouen ou aux alentours de mairie de Saint-Ouen, ou autour de mairie de Clichy. Et donc entre mairie de Clichy, pardon.
Pour ne pas spéculer, en fait, là récemment, on a eu des derniers documents qui sont des documents présentés donc par la PHP aux organisations syndicales, donc représentant au conseil d'administration de la PHP, et donc les plans sont clairement affichés. Il y a deux possibilités qui existent aujourd'hui pour cet hôpital. Ce serait soit à Clichy autour de l'hôpital Beaujon aujourd'hui, soit dans les docks de Saint-Ouen, c'est-à-dire au nord de Saint-Ouen. Et au niveau de la proximité, moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment quelqu'un qui habite dans le 18e, aux alentours de La Chapelle ou même à Porte-Montmartre, pourra aisément se rendre dans des urgences à l'autre bout de Saint-Ouen, alors que c'est encore aujourd'hui assez mal desservi par les transports, et surtout qu'il s'agit vraiment sur Bichat, encore une fois, de fermer et la maternité et les urgences, qui ne sont pas des services mineurs.
Tout à fait. Et il n'est pas prévu dans les projets...
En effet, scénario, il y a plusieurs scénarios, mais quels que soient les scénarios, nous, ça ne nous satisfait pas. Ce qu'on veut, c'est un hôpital dans Paris, que l'hôpital Bichat reste dans Paris.
Bien sûr. Alors, le souci, c'est quand même que... moi, j'avais vu avec eux, effectivement, je leur avais posé la question de savoir s'il était prévu, dans le cas, effectivement, l'hôpital se serait construit au nord des deux villes en question, Clichy et Saint-Ouen, s'il était prévu de construire une station de métro pour, justement, l'accès pour les patients. Et là, il m'a dit que c'était éventuellement faisable, que c'était peut-être... alors, je sais pas si c'était dans les cartons. En tout cas, que l'idée n'était pas du tout... ils avaient eu l'idée de faire ça éventuellement. Donc, si demain, ils construisent cet hôpital avec une station de métro pour avoir l'accès aux soins, vous êtes d'accord ou c'est encore...
Je suis pas du tout d'accord, mais en plus, ça me fait doucement rigoler parce que déjà... une station de métro, ce sont là par exemple il y a des lignes actuellement qui sont prolongées, ce sont des projets faramineux qui coûtent des millions d'euros, qui sont prévus des années voire des dizaines d'années à l'avance, et donc c'est pas à base de peut-être éventuellement on va réfléchir, on aimerait bien qui va nous satisfaire. Et puis au-delà de ça, même si c'était le cas, imaginons que demain une station de métro soit construite, moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment quelqu'un qui vient de se casser une jambe à Porte-Montmartre, au lieu de pouvoir avoir son hôpital juste à côté et ses urgences, va devoir prendre un métro sûrement bondé pour se rendre quelques stations plus loin à l'hôpital de l'autre côté. Donc même cette situation-là ne nous satisfait pas. Nous, on veut que l'hôpital Bichat reste dans le 18e arrondissement.
Alors, j'avais encore juste une question avant de parler du fond du problème, qui sont effectivement des problèmes politiques, évidemment, hein, et des problèmes de santé publique. Le Bichat est construit sur de façon horizontale, c'est-à-dire qu'il y a, je ne sais plus combien d'étages avec les ascenseurs, enfin bon, un certain nombre d'étages, et que là le projet de l'hôpital Paris Nord en fait est construit d'une façon horizontale, donc sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, j'imagine, hein, puisque ça va être immense.
Les premiers plans qu'on a nous laissent imaginer un très très grand centre.
Oui, j'imagine que ça va être un peu comme l'hôpital de Reims. Je sais pas si vous connaissez l'hôpital de Reims, mais voilà, l'hôpital de Reims c'était pareil, construit de façon horizontale sur des dizaines de kilomètres carrés. Et moi j'y étais pour quelqu'un de ma famille, juste c'est une anecdote, hein. Et j'ai mis beaucoup de temps pour trouver l'endroit où je devais me diriger, hein, parce que effectivement il y a des centaines de mètres de parking, bon c'est un peu compliqué. Donc effectivement là ça me posait un problème. Et quand je leur ai posé la question, ils m'ont dit mais non, vous inquiétez pas, ce sera fait, ce sera pensé, ce sera. Alors moi la question que je me posais, c'était en dehors du fait qu'effectivement on peut rénover avec 500 millions les locaux de, enfin le Bichat, l'hôpital Bichat, est-ce qu'il faut aussi mettre de l'argent dans Beaujon et dans la Riboisière parce que j'imagine qu'ils sont aussi vieillissants ces hôpitaux et qu'il faut également mettre de l'argent. Est-ce que le coût de la rénovation de l'existant serait le même que le coût de la construction du nouvel hôpital pour vous?
Pour répondre à votre question, je pense qu'il faut effectivement mettre de l'argent partout où les hôpitaux en ont besoin. Et vous évoquiez la taille immense des hôpitaux qui peuvent exister et qui est en projet là. C'est aussi un problème politique, c'est-à-dire que on construit des hôpitaux absolument géants qui ne sont plus du tout des hôpitaux à taille humaine. Et ça pose le problème, vous disiez, vous aviez du mal à vous repérer, mais c'est ça, c'est-à-dire que on arrive dans une espèce de superstructure, une usine, qui n'est plus capable de répondre aux besoins des populations, des personnes qui ont besoin de soins, qui viennent à l'hôpital. Et c'est ça le problème de fond. Alors évidemment, il faut investir dans des hôpitaux, mais il faut pas déconnecter ça de comment ces hôpitaux sont pensés. C'est-à-dire que moi, au-delà du fait même de la question financière, je ne suis pas favorable à un hôpital qui accueillerait des dizaines de milliers de patients urgents, puisque aujourd'hui, si on regroupe les hôpitaux de Bichat et de Beaujon sur un même site, c'est l'équivalent en volume annuel de 180 000 urgences par an. Aucun hôpital en France ne peut traiter 180 000 urgences par an en accordant encore une qualité de service, une qualité de soins aux personnes. Donc c'est vraiment une question politique qui n'est pas seulement une question financière. Évidemment qu'il faut des moyens, mais c'est aussi une question politique où on veut des hôpitaux de proximité, où on veut des hôpitaux à taille humaine sans arriver devant des usines qui où d'ailleurs on ne peut plus dormir, parce que maintenant il se développe la question de la chirurgie ambulatoire, comme on appelle ça. Vous venez le matin, vous repartez le soir. Et donc c'est pas du tout le projet de santé que nous on porte, en tout cas les élus communistes Front de Gauche.
Alors j'ai deux petites questions de commencer le sujet sur le problème de santé réel, hein, c'est-à-dire savoir quels services vont déménager, etc. C'est le problème, j'ai parlé du coût tout à l'heure. J'ai compris que 30% de cette construction nouvelle serait donc donnée par l'État, hein, à peu près en termes de budget. Savez-vous d'où viendraient les autres fonds? Est-ce qu'il y a des fonds privés, genre des fonds de labo, genre de choses qui seraient éventuellement mis en compétition pour financer ce nouvel hôpital?
Bah pour l'instant, et ça fait partie des vrais problèmes que nous on pointe, c'est que nous n'avons absolument aucune information.
D'accord.
On a déjà eu énormément de difficultés à avoir des informations sur le projet en lui-même, sur est-ce qu'il allait se faire, quand il allait se faire. Enfin, on sait qu'il va se faire, mais on n'a rien d'autre jusqu'à maintenant, on n'avait rien d'autre que des suppositions politiques. Aujourd'hui, c'est acté. Par contre, on n'a aucune information sur le financement. En effet, il y a une participation de l'État qui est évoquée, mais on risque, à mon avis, de se retrouver encore dans un cas de partenariat public privé qui sont un gouffre financier pour les collectivités qui, sur le plan des services publics, ne sont pas du tout satisfaisants. Et donc, ce que nous, on réclame en premier lieu, c'est de la transparence, de la concertation, et qu'on ait les informations, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un problème grave, et un problème à l'échelle parisienne, même au niveau de toute l'Île-de-France. Et ni les élus, ni les habitants, ni même les personnels de santé n'ont d'informations, même les syndicats de personnel n'ont d'informations sur les financements, sur la réalité exacte de ce projet. Et il y a une espèce de flou artistique qui est entretenu par la direction de la PHP, par le gouvernement, pour laisser planer un doute, pour que les mobilisations soient plus compliquées. Et c'est ça que nous, on dénonce.
D'accord. Alors j'ai parce que on a vu qu'il y avait effectivement un certain nombre de lits qui allaient disparaître de Bichat. Hein, voilà. Donc je crois que c'est autour de 600, si mes souvenirs sont bons.
C'est les chiffres qu'on a estimés, oui.
D'accord. Et comment va se faire donc cette mutation des transferts de compétences entre l'ancien hôpital et le nouvel? Alors quels vont être les services exacts qui vont déménager et ceux qui vont rester? Vous avez une idée là-dessus? Alors,
Pour dire les choses clairement, nous, les élus du 18e arrondissement, on a rencontré Martin Hirsch, qui est le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
Oui.
On a eu déjà du mal à avoir cette rencontre, parce que, évidemment, vous comprenez, c'est très compliqué de trouver une date dans l'agenda de Martin Hirsch. Donc, au bout d'un moment, à force de bousculer un peu les choses, on a réussi à avoir Martin Hirsch autour de la table, et on a demandé très clairement quel service allait rester sur Bichat, quel service n'allait pas rester sur Bichat. Et il ne nous a donné aucun engagement sur la maternité, il ne nous a donné aucun engagement sur les urgences, et les seules choses qu'il évoque, et qui se retrouvent d'ailleurs dans le projet qui a été soumis aux organisations syndicales, c'est une unité de gériatrie. Et donc pour l'instant, la seule chose qui est prévue sur Bichat, ce serait un gros service de gérontopsychiatrie et de gériatrie.
D'accord.
C'est les seules informations qu'on a. Mais donc, on peut plus que supposer. On sait maintenant qu'il n'y aura pas de maternité, il n'y aura pas d'urgence à Bichat.
Alors, vous êtes élu du 18e du Parti communiste français. Donc, quelles sont les possibilités pour vous de vous opposer éventuellement à cette construction? Je crois que dans mes souvenirs, que vous aviez posé des motions dans le cadre des réunions à Paris, hein, donc la ville de Paris. Quelles ont été la teneur de ces motions en fait sur cette question?
Là, nous, on a commencé au niveau des élus Front de Gauche communiste à Paris, on a commencé à poser le problème il y a plus d'un an maintenant, et d'abord avec notre première intervention a été évidemment de demander des informations et donc de demander une réunion publique avec la population. Ça, c'était en juin dernier. Voilà en quoi consistait notre vœu en conseil. on n'avait pas eu de réponse. En septembre, on a dû relancer. Et à force de relance, on a obtenu une première réunion avec Martin Hirsch. Ça, c'est ce qu'on a fait en soulignant évidemment nos inquiétudes. Le Parti communiste au niveau national s'est également exprimé, puisque Pierre Laurent, qui est le secrétaire national du Parti communiste français et qui est sénateur de Paris, a posé, dans le cadre de ses fonctions de sénateur, une question au gouvernement sur la question du Grand Hôpital Nord, il y a quelques mois maintenant. Donc tout ça, nous, on a déjà une première intervention qui est de obtenir des renseignements, obtenir des informations sur ce projet. Ensuite, le Parti communiste, lui, le Front de Gauche dans le 18e, ce qu'on essaye de faire, c'est de mobiliser la population, parce qu'une chose est sûre, c'est que, comme tous ces projets faramineux, l'intervention des élus ne suffit pas. Il faut que la population soit mobilisée sur ce sujet. Il faut que les habitants de ces arrondissements s'impliquent et puis mènent une lutte, exigent des informations, exigent le retrait de ce projet. D'ailleurs, l'Hôtel-Dieu, on voit que les élus communistes Front de Gauche avaient énormément relayé la lutte, mais ce qui a fait en partie gagner la victoire à l'Hôtel-Dieu, c'est quand même la mobilisation des syndicats, la mobilisation des habitants, la mobilisation des personnels. Et donc là, sur le 18e, pour pas être trop long, il s'est créé récemment un collectif Bichat pour la défense de l'hôpital Bichat, donc un collectif citoyen qui regroupe des syndicalistes, des membres du Front de Gauche, des personnes qui ne sont pas adhérentes dans un parti politique. Et donc, nous, en tant qu'élus, on se fait le relais des revendications de ce collectif qui est avant tout un collectif citoyen. Et donc, là, pour répondre à la question, à mon avis, on n'obtiendra satisfaction que s'il y a une forte mobilisation populaire dans l'arrondissement et dans le nord de Paris en général.
Alors, en dehors du site, enfin, je sais que vous avez effectivement un collectif Bichat, là, les 3 heures du Bichat, hein, donc vous aviez effectivement fait...
Ah, ouais, c'est ça, les 3 heures du Bichat était la réunion où s'est constitué le collectif.
Tout à fait. Donc, c'est collectifbichat@gmail.com, hein, si mes souvenirs sont bons, voilà.
Il y a une page Facebook, un compte Twitter aussi que je vous invite à suivre pour avoir D'accord. régulièrement les informations.
D'accord. Donc vous avez dans un futur proche et moyen terme donc des actions à nous donner maintenant peut-être pour savoir s'il va y avoir des mobilisations.
Oui, un peu des scoops, mais il y a deux choses qui vont être prévues prochainement. D'abord, le 11 avril, à la mairie de Paris, au niveau de l'hôtel de ville, Anne Hidalgo invite les Parisiens et les Parisiennes à venir discuter avec elle à l'occasion des 1 an de son mandat. Et donc, nous, on invite les habitants et les habitantes du 18e arrondissement, au nom du collectif Bichat, à participer à cette réunion et à interpeller Madame Hidalgo sur ses engagements en matière de santé à Paris, à lui demander de prendre des engagements, à lui demander de s'opposer à ce projet-là. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est samedi 11 avril, toute la journée à l'hôtel de ville. Mmh. Et la deuxième chose, c'est qu'on va lancer, nous, au nom du collectif Bichat, et donc relayé par les élus Front de Gauche, on va lancer une votation citoyenne. Qui va commencer le 25 avril, donc le 27 avril, devant la mairie du 18e, sur la place Jules Vaufrin. Et donc, à cette occasion, on va faire symboliquement voter les habitants de l'arrondissement sur ce projet-là. Êtes-vous pour ou contre ce projet d'un hôpital grand, enfin d'un grand hôpital nord de Paris, au détriment de l'hôpital Bichat? Et puis, on espère recueillir énormément de votants pour ensuite pouvoir mettre un peu la pression à la PHP, à Madame Hidalgo, etc., etc.
Mais écoute,
le 25 avril.
Mais écoute, Hugo, je te remercie pour tes éclairages. Tu avais peut-être quelque chose à rajouter sur effectivement. Par contre, ça c'est un autre sujet. C'est sur le projet hôpital de la ministre de la Santé. Non, pas trop.
J'ai peut-être quelque chose à rajouter. C'est-à-dire que tout ça, finalement, et on l'évoquait un petit peu au début, n'est pas uniquement une question parisienne. Il y a récemment, on a annoncé, vous savez que dans le cadre du crédit impôt compétitivité emploi, dans le cadre du crédit impôt recherche, le gouvernement de Manuel Valls doit trouver 50 milliards pour donner des cadeaux aux entreprises, en gros. Et sur ces 50 milliards, il prévoit de prendre 3 milliards sur les hôpitaux. Donc, ça a été annoncé dans la presse, il va y avoir en gros 22 000 suppressions de postes dans les hôpitaux, alors que la logique d'un gouvernement de gauche voudrait plutôt de créer des postes. Et si on regarde un petit peu le détail de ces économies de 3 milliards sur l'hôpital, on remarque qu'ils estiment faire entre 500 millions et 1 milliard d'économies sur les restructurations hospitalières et notamment les fusions d'hôpitaux. Et quand on regarde ce qui se passe dans le cas présent, c'est exactement ça. Et donc, en fin de compte, tout ça s'insère dans un plan généralisé d'austérité. Et où on regroupe des hôpitaux pour faire des économies, on réduit l'offre de soins pour faire des économies, et puis juste pour terminer là-dessus, rappelons que François Hollande, dans un discours en juillet 2013 à l'occasion de l'inauguration d'un hôpital, avait annoncé déjà qu'il souhaitait la fermeture de Bichat. Donc c'est quelque chose qui est quand même dans les tuyaux depuis un moment.
Très bien, écoute Hugo, je te remercie d'avoir répondu à notre invitation. De toute façon, tu reviens ici quand tu veux pour nous parler des évolutions du projet. Hein, et puis voilà.
Pas de souci, je manquerai pas.
Il n'y a pas de souci. Merci à toi.
Hein. Bonne soirée.
Bonne soirée. On écoute une petite chanson, ensuite on reprend la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans la fameuse émission de Mode d'Emploi. Mode d'Emploi, c'est l'émission des chômeurs précaires avec AC. Alors juste une petite information, sachez que à partir d'aujourd'hui, l'émission d'AC Agir Ensemble contre le chômage, le groupe qui est historique va maintenant faire une émission par mois et non plus une émission par semaine comme avant, puisque nous avons trouvé donc une émission supplémentaire pour nous remplacer, car nous avions beaucoup beaucoup de choses à faire. Nous sommes heureux de l'avoir parmi nous. C'est Secret de Fabrication, qui va intervenir la troisième semaine de chaque mois. Donc, c'est sur les inspecteurs du travail. Donc, nous avons donc pour la première fois chaque semaine une émission différente. Enfin, un groupe de différentes sur cette émission. Donc, ce sera donc AC, donc nous, l'émission historique. Ensuite, ce sera Attaque, Secret de Fabrication et bien sûr Copernic, la Fondation Copernic qui finira donc le mois à chaque fois. Donc nous sommes heureux de les accueillir à nouveau dans cette émission. Tous, pour ce qui est, voilà. Donc je suis content d'accueillir également Christophe qui est arrivé avec beaucoup de retard. Bonjour Christophe.
Et tout mouillé. Hein, oui. Bonsoir à tous et à toutes.
Tu t'es trompé de route peut-être.
Voilà. Je ne connais pas encore assez bien le 19e.
Voilà.
J'ai pris la saucée.
Il y a également Ludo avec nous. Bonjour Ludo. Donc,
comme punition, tu n'auras pas le droit d'ouvrir la parole pendant le prochain quart d'heure.
Claude à la technique et toujours Gilles au micro avec vous. Cette émission reprend et nous allons parler maintenant du rapport qu'il pourrait y avoir entre la montée de l'extrême droite en Europe et le chômage, Ludo, dis-moi un peu.
Ouais. La question elle s'emballe quand même, hein, parce que je vous rappelle qu'on sort d'une période électorale où certes le Front National n'a gagné aucun département, mais effectivement où tous les médias lui prévoyaient monts et merveilles, hein, parce qu'évidemment c'est un parti qui a beaucoup de soutien médiatique, on serait presque tenté de dire. Et voilà. Et donc la question se pose parce qu'on s'est quand même aperçu lors de la dernière élection présidentielle que même si traditionnellement le Front National fait ses meilleurs scores dans le sud de la France. Alors évidemment, on pourrait avancer quelques explications schématiques à l'emporte-pièce qui nous feraient plaisir. Bah oui, là-bas, vous savez, c'est quand même plutôt des gens âgés qui font, notamment du côté de Nice, âgés et ayant d'argent, qui font de l'héliotropisme, en quelque sorte, hein, et qui, évidemment, ne supportent pas de voir un arabe ou un noir dans leur rue propre et clean. Voilà, on pourrait. J'ai pas dit qu'on le ferait, mais on pourrait. Mais traditionnellement, c'est vrai que c'est quand même plutôt le Sud qui est aussi une terre d'immigration, faut le dire. On s'est aussi aperçu récemment que c'était devenu l'Est, et notamment les anciens bastions ouvriers de Lorraine, d'Alsace. L'Alsace, c'est toujours un cas un peu particulier, mais bon. Et forcément, on est obligé de lier ça à la désindustrialisation et au chômage. Massif, qu'il y a dans ce pays. Alors, un monsieur qui s'appelle Laurent Veil et qui est professeur à Sciences Po de Strasbourg justement a écrit un papier pour comparer la situation européenne, comparer la situation française aux situations européennes. Et c'est vrai qu'on a des résultats électoraux en pagaille ces derniers temps, un peu partout, du nord au sud en Europe, ça va pas très fort. Et donc notez bien que les partis d'extrême droite ou qui font leur meilleur score en Europe sont les pays du Nord, donc le Danemark, le Royaume-Uni en premier, hein, le Danemark à 26%, le Royaume-Uni, la France, c'est dans l'ordre, l'Autriche, voilà. Et c'est évidemment des pays qui sont en réalité, excepté la France, le moins impacté, dirais-je, en tout cas qui ont le taux de chômage le plus faible. Alors par exemple, hein, l'Autriche a un taux de chômage de 4,9%. Le Danemark et le Royaume-Uni avaient également des situations de l'emploi très favorables à 6,5 et 6,3%. Voilà, et seule la France est à 10%. Alors là, bon, il y a quand même une petite remarque à faire, c'est que ce n'est pas parce que, par les temps qui courent, hein, disons en 2015, c'est pas parce qu'un pays a un faible taux de chômage que la situation des gens qui travaillent
est bonne et s'améliore.
Et c'est même plus que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les définitions du chômage étant quand même très restrictives partout, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de précarité, même une précarité forte, et des gens qui ressentent une condition de chômeur tout en travaillant, donc à temps partiel par exemple, et donc je pense notamment au cas de l'Angleterre où les taux de pauvreté sont quand même assez astronomiques, et donc voilà, donc c'est vrai que l'indicateur du chômage en tant que tel n'est pas significatif en soi de l'état de la pauvreté de la population, et donc le cas de l'Allemagne par exemple, il fait peut-être pas très bon d'être employé dans les services en Allemagne, là où il n'y avait pas de SMIC jusqu'à très récemment, ou même un travailleur volontaire, j'allais dire, mais disons en brigadier de force, voilà, par le nouveau système allemand. Donc voilà, mais cela étant dit, il y a quand même un exemple, un contre-exemple, qui est l'exemple du Sud, c'est-à-dire qu'en fait, les pays qui sont le plus touchés par le chômage aujourd'hui, c'est donc l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Or, l'extrême droite ne fait pas des scores mirobolants, et c'est même l'extrême gauche qui ramasse l'extrême gauche, c'est pas un mot
la gauche radicale,
sympa, mais la gauche radicale qui ramasse le gros lot, et donc le meilleur, même à titre d'exemple, le meilleur score d'un parti extrême droite, c'est dans les pays, c'est en Grèce, donc qui fait 9,39%, soit 15 points de moins que le Front National quand même. Hein. Alors, le chercheur poursuit, toujours dans ce type de comparaison un peu vaste. Par exemple, quelle est l'élection présidentielle depuis 1981 où le taux de chômage au moment de l'élection était le plus faible?
81 peut-être, Mitterrand, non? Ou
non.
Avant 74?
Non, depuis 81.
Depuis 81, excuse-moi.
Non, bah, tu n'as pas la réponse, parce que tu n'y aurais pas pensé, en fait.
Non,
et c'est vrai, alors que c'est évident. C'est celle de 2002.
Ah bon? D'accord.
Absolument. C'était la grande période où Jospin était passé par là. Enfin, c'est pas Jospin, mais où on sortait d'une période de création d'emplois. Et donc, le chômage était à 7,5%. Et c'est pourtant la seule et unique fois où Jean-Marie Le Pen, au second tour du scrutin, au deuxième tour du scrutin, et évidemment, l'année du meilleur score historique de l'extrême droite, avec 19,2%, en tenant compte de la candidature dissidente de Bruno Maigret, et il faut le dire aussi, d'une relative abstention tout de même. Voilà. Mais bon, c'était quand même un des meilleurs scores. Ce qui indique quand même que, et là on approche un peu du cœur du sujet, c'est que c'est pas automatiquement lié du tout, puisqu'effectivement c'est la période où on a le plus parlé d'insécurité, de peur, de délinquance, de machin, de toutes choses terrifiantes qui nous guettent à chaque coin de rue. Et voilà, donc à contrario, même en 95 et en 2012 où le taux de chômage était beaucoup plus élevé en France, eh bien l'extrême droite a fait un moins bon score. Voilà. Et donc la question centrale arrive, tout ça pour ça, c'est qu'en fait, on a tous dans la tête un exemple dramatique qui nous hante et qui nous fait trembler nos responsables politiques dans un avenir pas si prochain, qui est un exemple historique terrible dont tout le monde se souvient, qui a marqué l'Europe et le monde. Eh bien là, autour de la table, quelqu'un dit quelque chose.
Dis-moi tout.
Vous allez rater votre... Eh bien, c'est la montée du chômage en Allemagne en 1930,
évidemment.
Bien entendu. Et oui, parce que quand même, il faut dire qu'en 1932, en Allemagne, on a atteint 43,8% de chômeurs.
Du chômage,
ouais. Et c'est-à-dire 6 millions. Et donc, un an après, Hitler arrivait au pouvoir. Alors, l'auteur, j'ai envie de dire, est un peu court sur la question. Est-ce qu'il s'arrête là?
Oui.
Fait remarquer quand même que aux États-Unis, il avait atteint 37,6%, 37%, bon, en 33, 30% au Danemark et ou aux Pays-Bas, et que c'est pas pour autant que les fascistes ont déboulé dans ces pays, et que le seul pays qui était vraiment fasciste, c'était l'Italie, qui l'était depuis 1922. Mais bon. Ça demandait. Alors évidemment, on pourrait parler des pays de l'Est quand même, qui n'étaient pas tout à fait fascistes, mais voilà, où
pas
c'était
loin,
pas brillant.
Ouais.
Et puis en 1922, on peut parler de ces millions de gens, enfin, qui se sont retrouvés après la guerre sans rien aussi, et qui ont évidemment contribué au fascisme. Et là, donc justement, ça s'appelle un commentaire, parce qu'effectivement, toute cette discussion, pourquoi en fait, hein, c'est qu'en fait on a quand même tendance à associer chômage de très haut niveau et puis donc menaces sociales et politiques, voire, pour tout dire, arrivée d'une dictature dans les prochains moments, une dictature rouge-brune, par le temps qui court, c'est un peu comme ça qu'on dit, puisque forcément c'est les anciens ouvriers qui vont voter FN,
c'est ce qu'il dit, mais bon, c'est pas tout à fait vrai non plus.
Et là, je sors mon... justement, est-ce que c'est vrai? Je sors mon Emmanuel Pierrehue, un livre extraordinaire qui s'appelle « Guerre aux chômeurs » ou « Guerre au chômage ».
Collection Raison d'agir.
Dans le titre, voilà, « Savoir agir ».
Savoir agir, oui.
Édition du Croquant. Et oui, c'est pas la raison d'agir de Pierre Bourdieu, c'est un peu plus gros. Et donc, il y a tout un chapitre qui est consacré au chômage, justement, en Allemagne.
Ah.
Et là, justement, est-ce que, effectivement, peut-on dire que c'est le chômage qui a provoqué
la montée
du chômage, qui a provoqué l'élection d'Hitler, l'arrivée d'Hitler au pouvoir? Effectivement. Alors, lui, il dit, évidemment, c'est un peu quand même une question de bon sens, hein, quand vous arrivez à 43% de chômage, bon, difficile de pas avoir le nazisme comme une conséquence de la crise. Mais la vraie question, c'est est-ce que les chômeurs, les foules privées d'emploi, ont réellement voté le Parti National Socialiste, qui n'avait de socialiste que le nom, je le répète, hein, puisque depuis sa création, Hitler avait un tout petit peu amendé les mesures sociales qu'il y avait dedans. Ça, c'est pour les incultes de droite qui essayent de faire un lien un peu bidon autour de ça. Et là donc l'article est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que il dit, bon, vous savez, le chômage, qu'est-ce que on provoque en fait provoque effectivement des votes radicaux, donc extrême gauche ou extrême droite, mais il le fait aussi ou par par rebond ou par contexte. C'est-à-dire que finalement, peut-être que la personne qui va voter extrême droite, c'est pas la personne qui est au chômage. Ça peut être, par exemple, sa famille qui le voit au chômage. Mais ça peut être aussi, d'autres classes sociales entre guillemets, qui sont en fait traumatisées par le chômage. Alors lui. Et je vais essayer de faire court, mais bon, avance les explications en général avancées jusqu'à maintenant, c'est une explication qui est avancée ou par le PC ou par Anna Arendt, par exemple, c'est qu'en fait le chômage provoque une espèce d'anomie généralisée, une désintégration économique et sociale, un éclatement de la structure des classes qui génère des individus atomisés et privés de tout repère, hein, c'est le syndrome de la modernité. La figure du chômeur déraciné condense assez bien cette imagerie des masses qui, tout à leur irrationalité, sont subjuguées par le charisme hitlérien. Voilà. Donc ça, voilà, et ils sont perméables à la propagande nazie et c'est des foules crédules, voilà. Donc ça, bon, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que le chômage provoque une espèce de détruit le lien social en fait et provoque des gens qui sont dans un total absence de repères. Et une autre explication qui est plus fine, qui est le déclassement des petites classes moyennes, beaucoup plus vernicieuse, qui est menacée par le chômage et la reprolétarisation. Et donc ça constitue un schéma interprétatif parce que c'est pour rendre raison de la pensée électorale des nazis, la vulnérabilisation économique et le déclin social qui s'ensuit aurait ainsi libéré la rancœur et le ressentiment de ces couches moyennes profondément réactionnaires, dit-il. Et donc l'un des théoriciens du nazisme, monsieur Kornhauser, excusez-moi l'accent, hein, écrit ainsi: beaucoup de cols blancs allemands au chômage ont rallié les nazis pendant que leurs pères, encore au travail, restaient modérés ou conservateurs. Alors voilà. Et maintenant, donc effectivement, il dit, ça, c'est des interprétations vraisemblables. Qu'est-ce qu'il en est quand on regarde la sociologie électorale de l'Allemagne de l'époque? C'est que, en fait, on a un souci, c'est qu'à l'époque, n'existait pas d'institut de sondage, les urnes, et qu'on a finalement que des données agrégées, c'est-à-dire par région, qui font en fait le lien entre un taux de chômage fort et une percée électorale
d'un mouvement quelconque. Oui,
voilà, et en l'occurrence du mouvement nazi en Allemagne en 1933.
Par contre, les ouvriers ont beaucoup voté apparemment quand même.
Alors voilà, c'est là ce qu'il dit, c'est qu'en fait on peut pas savoir. Donc,
on peut pas savoir.
Et donc. Et donc, il y a quand même des spécialistes qui tentent de casser en fait cette espèce de désagréger ces données. Et leur conclusion est quand même assez étonnante, puisque finalement, ils disent, mais au fond, rien ne permet d'affirmer que ce sont les ouvriers qui se sont portés sur le parti hitlérien. Au contraire, on a plutôt tendance à penser que les ouvriers donc les ouvriers, alors ça veut dire ceux qui travaillent, se sont portés, en fait, ou les chômeurs se sont portés sur les communistes ou l'extrême gauche de l'époque, qui avait été quand même bien décimé, faut le préciser, dans la décennie précédente. Hein. Ah oui. Le chômage a contribué, dit-il, à peut-être 2% dans la montée de d'Hitler, ce qui n'est pas négligeable. Les cols blancs, on ne sait pas trop, c'est plus difficile à déterminer, mais peut-être un peu plus, en tout cas.
Petit bourgeois,
voilà.
C'est
voilà, au chômage aussi. Hein. Parce qu'à l'époque, tout le monde est au chômage, quoi. Voilà, 2 à 4% en faveur du parti hitlérien, ce qui est plutôt modeste, sans être pour autant négligeable. Cela dit, il semble établi statistiquement que là où le taux de chômage était le plus élevé, les nazis faisaient leur moins bon score électoraux. Étonnant. En fait, tout porte à penser que c'était le Parti communiste allemand qui tirait les profits électoraux du chômage de masse. Il enregistrait ses meilleurs résultats dans les zones où l'on comptait le plus de chômeurs. Si radicalisation des sans-emploi il y a eu, il apparaît donc qu'elle s'est opérée vers la gauche de l'échiquier politique et non vers l'extrême droite. Voilà. Plus généralement, il est faux d'affirmer que les chômeurs sont massivement ralliés par leur bulletin de vote au parti hitlérien. Voilà, j'ai l'impression d'avoir découvert la lune. Hein, parce que... voilà. Et toujours à rebours de ce qui est d'ordinaire avancé en milieu ouvrier, le chômage constitue un très bon prédicteur de gros scores communistes et de faibles gains nazis. Voilà. Bon, à l'époque, hein, on est quand même le milieu ouvrier est quand même beaucoup plus structuré qu'aujourd'hui. Hein, voilà. Même s'il se retrouve au chômage. L'hypothèse d'un chômage des masses séduite par les sirènes nazies est donc passablement mise à mal. Donc pour l'école blanche, comme je disais, les résultats invitent à plus de prudence puisque le parti nazi obtient des scores supérieurs à la moyenne parmi l'école blanche au chômage. Voilà, mais le Parti communiste tire aussi quelques gains dans les urnes de l'extension du chômage. En fait, il est vraisemblable que l'effet de radicalisation électorale en faveur des nazis est, s'agissant du chômage, un effet de contexte ou de transfert dans une société colonisée par la violence des groupes paramilitaires émanant des grands partis, communistes, social-démocrates, mais surtout social-démocrates, on va dire, et nazis. Et la multiplication des troubles à l'ordre public, la peur généralisée des désordres sociaux et politiques serait à l'origine de la radicalisation de groupes sociaux non directement touchés par le chômage. Les chômeurs incarneraient et symboliseraient le déclin économique et social de l'Allemagne de Weimar. Pour le dire très simplement, la radicalisation à l'extrême droite du corps électoral serait plutôt le fait des non-chômeurs qui redoutent une radicalisation massive des franges de la population les plus frappées par la crise économique. Alors, je vais vous dire, je suis pas assez calé pour vous dire si ce qui est dit là-dedans s'applique à la France. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au vu des scores de l'extrême droite au Danemark, en Suède, en Finlande,
qui sont forts,
et qui sont parmi les plus élevés d'Europe, ou en Autriche,
absolument.
Ce type d'explication pourrait parfaitement s'appliquer, même si s'appliquer par les temps qui courent, c'est-à-dire, le fait qu'il n'y ait pas des gens au chômage n'empêche pas, et comme je l'ai dit, une paupérisation et une précarisation de la population, et ben ça s'applique parfaitement à ces pays qui ont le taux de chômage le plus faible, mais le taux de le vote à l'extrême droite le plus affiché. Et notons bien que là où la crise est la plus forte, les gens votent en Espagne ou en Grèce, votent à l'extrême gauche.
Christophe ?
Oui, non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que il faut pas oublier que le mythe nationaliste sur lequel se repose l'idée d'un grand État, d'une nation revigorée par sa jeunesse, travail, famille, patrie, etc., ça n'a pas du tout la même connotation culturelle au Danemark, ou par exemple, je pense à l'extrême droite des Pays-Bas, enfin des Flandres, qui a quand même foutu un sacré dawa au niveau de la Belgique, notamment, hein, en exigeant que tout soit en flamand, dans certains Länder belges, etc. C'est pas du tout le même contexte, en fait.
Attention, t'as dit Länder, c'est dur.
C'est pas du tout le même contexte intellectuel et culturel. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même appréhension. Et l'explication, en fait, c'est pas les chômeurs et les ouvriers qui vont voter, c'est plutôt ceux qui ont peur d'être déclassés. Et c'est le mécanisme, c'est la peur du déclassement. C'est une projection collective du déclassement par rapport à une crise économique. C'est-à-dire que ceux qui la vivent en n'ayant pas de travail vont plutôt voter sur un engagement radical de réforme de mode de vie de société, comme le communisme, ou de pensée anticapitaliste, enfin, ou complètement réformiste vis-à-vis de l'économie de marché. Et ceux qui ne la vivent pas et qui en ont peur, mais qui ont quand même leur petite situation, vont plutôt être dans une logique de « ça peut m'arriver à moi, donc je vais dire que je me réfère à la nation et toutes les valeurs qu'il y a derrière ». Ça, c'est une réalité. Par contre, je mettrai un bémol par rapport à toutes ces analyses. OK pour ces grilles de lecture, Seulement, je pense que la paupérisation et la précarisation grimpante et galopante qu'il y a eu dans tous les territoires ruraux ou désindustrialisés, comme tu parlais par exemple du bassin lorrain ou autre, ça joue énormément. Hein, je pense que tous les personnes qui travaillent, qui sont des petits commerçants ou gérants de petites sociétés ou ouvriers, même pas forcément ouvriers, ont voté justement par rapport à cette notion de déclassement. Je pense par exemple dans l'Aisne ou en Picardie, c'est un vote des oubliés en fait. Ouais. Par contre, faut pas oublier, c'est-à-dire qu'on parle, tu parles de classe sociale. Moi, je voudrais parler plutôt de choc générationnel. Effectivement, dans le sud, tu vas avoir un certain nombre de milieux aisés. De
région gens, PACA en particulier.
En région PACA, qui sont des plus de 50 ans, qui ont un certain capital éducatif, financier, qui vont faire un vote. Oui, mais ça, pas dans mon jardin. Tandis que tu vas avoir, parce que ça, il faut pas l'oublier, c'est qu'il y a une nouvelle donnée qu'il faudra analyser par la suite, c'est qu'il y a beaucoup de 18-30 ans qui ont voté pour le Front National aux dernières élections.
Absolument, tout à fait. Ouais.
C'est-à-dire que c'est des idées nationales, c'est le renfermement vis-à-vis du concept de France, une notion de protection, c'est-à-dire que c'est dire moi j'ai pas d'emploi ou je risque de perdre mon emploi parce que c'est la faute à l'étranger ou alors je suis pas d'accord d'être dans cette situation là, donc je vais me radicaliser en disant
en l'occurrence, parler de chômeurs, il y a déjà c'est vrai un problème d'accès d'emploi, hein. C'est-à-dire voilà. Qu'il y a comme une anticipation.
C'est principalement à mon avis principalement à votre sanction, tout simplement. Par rapport à une gauche décevante.
Je suis pas sûr que les percées des jeunes, c'est ça qui est le plus inquiétant, parce que d'accord. Quand t'es jeune, qui a 15 ans et n'est pas de gauche, n'a pas de cœur et qui, à 40 n'est pas de droite, n'a pas de tête. Non, je l'ai entendu à la bouche du baron Cellière, donc,
d'accord, si vous voulez. Okay. Je crois que c'est Clémenceau qui a dit ça.
Oui, quelque chose comme ça, oui. Et, il a dit anarchiste, en fait, qui n'a pas été anarchiste à 16 ans, est un imbécile. Ouais. Et qu'il est encore, et c'en est un autre de l'être à 40 ans. Mais oui, je veux dire, on est jeune, on peut avoir tendance quand même à être un peu quand même optimiste quant à l'avenir.
On devrait, oui, on devrait.
Enfin, en tout cas, être généreux. Donc, et quand on est jeune, on s'enracine, enfin, on a tendance à s'enraciner aussi dans, politiquement. À ce moment où ça se cristallise. Donc, ça pourrait signifier que quand on vote jeune FN, on va plutôt s'installer dans la durée. Je veux dire, au minimum, on peut finir comme Alain Madelin.
Cadre du parti.
Voilà, libéral, mais extra-libéral. Mais c'est, voilà, c'est-à-dire, et on aurait réussi sa vie, je veux dire, dans ce cas.
Mais merci à tous les deux. On va écouter une petite chanson et on reprend la parole. Merci.
Nous engraissons le capital et ses usines. Enchaînés du matin au soir à la machine. Solidarité mes frères, car l'union nous rendra
fort. Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission d'agir ensemble contre le chômage, donc des chômeurs et précaires. Merci à tous de continuer à nous écouter. Cette émission continue. Nous allons parler maintenant de Frédéric Lardon, qui a écrit un article extrêmement intéressant sur Piketty dans Le Monde Diplomatique. Ludo, je crois que tu y as jeté un œil. Qu'en as-tu pensé de cet article? Parce qu'il est assez critique quand même. Hein, pour
alors,
le coup,
il est très dur. Moi, je trouvais très, très dur. Et en fait, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que cette émission, nous, on a suivi les travaux de Thomas Piketty depuis 2000, à l'insu de notre plein gré, on va dire, parce que c'était une des rares personnes qui mesurait les inégalités, alors essentiellement les inégalités de salaire, et qui couplait ça avec l'impôt, dans un contexte où on baissait continuellement les impôts. Et donc, c'est vrai que c'est devenu, dans l'émission, que dit Thomas Piketty aujourd'hui, quoi, c'est un peu ça, hein, le truc. Et donc, voilà, et quand il a sorti son bouquin là, de 1000 pages sur le capital
du 21e siècle
où, grosso modo, je veux dire, c'est le but de l'ouvrage, c'est de compter, en fin de compte, de compter avec une définition minimale du capital, mais on a presque envie de dire voulu, c'est-à-dire au sens où, puisqu'on compte, comptons le plus simplement possible, et d'établir scientifiquement ce que intuitivement des gens commencent à percevoir. Je dis bien intuitivement, mais pas plus, puisque comme il le dit lui-même, les instituts nationaux statistiques des différents pays ont renoncé à compter passer les 1% les plus riches. Voilà. Et en plus, donc, ça représentait quand même un travail considérable.
C'est un gros bouquin,
sur le 19e. Oui, et sur tous les pays, comparaison pays à pays, et sur le 19e, le 19e, c'est intéressant parce que là aussi, les historiens, ils savent bien que il y a une espèce d'oligarchie financière qui a gouverné la France, enfin, qui a construit la France au 19e siècle.
Mais le reproche qui quand même lui a été fait dans le monde diplomatique, en tout cas dans ce que j'ai pu en lire rapidement, c'est quand même qu'il n'y avait pas de statistiques dans l'Antiquité, qu'il pouvait pas...
Non, justement, alors on lui a reproché ça, c'est effectivement de remonter à l'Antiquité, et même après, et que du coup, bah là, oui, les statistiques de l'Antiquité, c'est un peu plus d'accord. Mais pour tout vous dire, l'historien, j'imagine, il y a une histoire sérielle qui commence depuis le Moyen Âge, par exemple pour les baptêmes, hein. Et donc on l'estime quand même assez fiable, enfin les historiens en tout cas l'estiment assez fiable, donc voilà. Et puis ensuite, effectivement, les historiens ne se font pas trop d'illusions sur la croissance au Moyen-Âge, quoi. Mm-hmm. Et encore, je veux dire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, parce que hein, les problèmes d'augmentation des prix à l'époque moderne. Bon, alors
il y avait des cahiers de coin qui étaient tenus aussi par les impôts au Moyen-Âge aussi.
Les foyers,
la dîme et la gabelle.
Voilà, c'est sûr qu'on peut pas appliquer les catégories d'aujourd'hui aux catégories historiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'un économiste fasse vraiment les comptes, et notamment sur le 19e et sur le 18e siècle, et qu'il soit capable de répartir par type, le capital propriétaire, le capital industriel, qu'il soit surtout capable de parler du revenu ouvrier. Parce que ça, comme il l'a dit, moi, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup trouvé, hein, par exemple dans mes études. Donc, par exemple, quand Karl Marx écrit son machin, le revenu ouvrier, il est tout plat. Et puis, à un moment, il décolle. Et donc, effectivement, pourquoi la révolution communiste n'arrive pas? Parce qu'en fait, l'ouvrier commence à s'enrichir. Ça peut être une explication comme une autre. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un ouvrage historique et qui a la fonction
que tu conseilles en fait aux gens de lire,
et surtout qui nous décentre, c'est-à-dire qui nous oblige, vu la période qu'on vit, à aller regarder à nouveau notre histoire pour essayer de comprendre. Voilà. Et donc je trouve les critiques un peu dures.
Ouais,
mais
voilà,
je trouve quand c'est bête de tirer sur son
il
sur
a été
son
un peu fort
camp,
il a été un peu fort ouais.
Voilà, et de bon voilà, je veux dire, on a pour une fois qu'on a quelqu'un qui fait de l'économie et en plus qui est reconnu d'une certaine façon, hein, voilà, que ses travaux soient reconnus.
Mais il faut aller le lire, hein. Lisez donc ce Capital du 21e siècle de Piketty, hein. C'est intéressant. Et également le monde diplomatique, parce que quand même les critiques étaient un peu fortes, je reconnais, mais c'est aussi intéressant de voir un petit peu sa position.
Le problème, si tu veux, c'est que le problème de fond, je pense notamment à la notion d'hospitalerie des Templiers et des moines soldats, qui ont été les premiers à créer la poste historiquement en termes de concept, c'est que ils s'enrichissaient grâce à ce réseau-là. Sauf que cet enrichissement commercial pouvait être lié aux alinéas de la nature, parce que la nature n'était absolument pas maîtrisée. Donc tu pouvais avoir très bien une cargaison qui partait de Syrie, de Damas, et qui ensuite coulait. Donc tu n'avais pas d'assurance, etc. Du coup, les fortunes et les fortunes familiales ne se faisaient pas uniquement liées au commerce. Il fallait aussi avoir un pouvoir politique, un pouvoir nobiliaire ou un pouvoir clérical.
Sur la terre. 98% des richesses étaient tirées de la terre.
Du fait de ces aléas du commerce. C'est déjà une première remarque. Et la deuxième remarque, moi je pense que en se décentrant, le premier problème qu'il y a et ce qui embête tous les économistes et notamment toute la clique libérale, excuse-moi, c'est que Thomas Piketty, sur des faits quand même relativement étayés et précis, des données qui quand même sont quand même chiffrées, notamment en ce qui concerne le 18e, le 19e, le 20e, il jette un pavé dans la mare, à savoir que le système oligarchique financier qu'a construit la France au 19e siècle et puis en Europe, il perdure et il continue à s'enrichir. Voilà. Et ça embête tout le monde.
C'est dommage que que les critiques viennent de l'extrême gauche.
En tout cas, merci à tous les deux d'avoir fait cette émission avec moi. Alors, deux, trois petites annonces. La première, c'est que le 11 avril, devant la mairie de Paris, c'est les 1 an d'Hidalgo, donc allez-y pour manifester contre cet grand hôpital qui va peut-être défigurer un petit peu la région parisienne. Il y aura également une votation citoyenne le 27 avril à Jules Geoffrin. Donc, pour vous renseigner sur les horaires, c'est le collectif Bichat. Tapez collectif Bichat sur gmail.com ou demandez à gmail.com. Qu'est-ce que je raconte? Ou collectif Bichat sur Google. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci en tout cas à notre ami du PC d'être intervenu dans cette émission. Hugo, voilà. Il y a également une manif du 9 avril contre l'austérité, la loi Macron, à 13h place d'Italie et à 11h30 au Carrefour Market, donc toujours place d'Italie, mais c'est sans doute un endroit de rendez-vous pour les copains de la C. C'est oui, c'est voilà, c'est Carrefour, Carrefour Market. Donc c'est les week-ends de la colère contre les ridicules augmentations des salaires, quelques centimes. Donc allez-y, n'oubliez pas d'y aller parce que c'est quand même très très important de continuer à se mobiliser. Nous sommes ici dans une radio de la gauche radicale. Il faut quand même continuer à se militer, à s'opposer à tout ce qui nous arrive sur la gueule, qui sont quand même ahurissants. C'est quand même, c'est vrai que c'est ahurissant. Donc merci à tous les deux d'avoir fait cette émission avec moi. Merci messieurs dames de l'avoir écouté. Hein. Voilà, je vous donne rendez-vous donc exceptionnellement à partir d'aujourd'hui dans un mois. Hein.
Et dans 15 jours on n'a pas d'émission alors.
Et dans 15 jours exceptionnellement on n'a pas d'émission puisque c'est l'émission qui nous remplace, c'est les fabriques de secrets de fabrication avec les inspecteurs du travail. Une très bonne émission, voilà, qui avait fait leur émission pilote il y a le mois dernier sur effectivement les sans-papiers. Voilà. Merci à tous, bisous aux filles et poignées de main aux garçons, ciao.
Bonsoir. Bonsoir.
Mm-hmm.